10 minutes chronique. Raymond Carver, deuxième partie. Raymond Carver est né dans une petite ville de l'Oregon, à Clatskanie, et a passé son enfance et son adolescence à Yakima, dans l'État de Washington. Son père était ouvrier dans une scierie et sa mère était femme au foyer, parfois engagée pour de petits boulots, vendeuse ou serveuse. Dans cette famille d'Américains modestes, où les parents étaient attentifs à leurs enfants, quelques failles apparaissent toutefois. Au portrait d'un père plutôt joyeux qui fait la lecture à son fils, l'emmène à la chasse, à la pêche, s'ajoutent des scènes moins heureuses quand il ne rentre pas le soir à la maison. Ce que Carver exprime ainsi. Je me souviens encore de l'atmosphère de désespoir et de désolation qui régnait dans la maison les soirs où nous nous asseyions seuls à la table du dîner, ma mère, mon petit frère et moi. Est-ce l'habitude que le jeune Raymond a eue d'écouter son père lui raconter des histoires qui lui a donné très tôt une sorte de passion pour les récits? Cette partie reste un peu mystérieuse. Ce que l'on peut dire, c'est qu'à la lecture, il donne sa préférence à l'écriture. Les auteurs qu'il a admirés arriveront plus tard dans sa vie. Il explique que son père ne lisait que des récits de western, ce qu'on appellerait aujourd'hui des romans de gare. Lui-même dit qu'il n'a lu dans son enfance que des magazines populaires de chasse et de pêche. D'ailleurs, sa première nouvelle, écrite à l'adolescence, racontait une partie de pêche. Cette nouvelle, jamais publiée, représentait pourtant le départ d'une longue quête. Marié très tôt, père très tôt, responsable d'une famille à un âge d'ordinaire porté vers l'avenir, Raymond Carver est plongé dans l'urgence du présent. Il doit travailler, et pour cela remplit successivement divers emplois, livreur, pompiste, balayeur. Cependant, il tient à continuer d'étudier. Voici ce qu'il dit. Quand j'ai enfin obtenu mon BA au collège de Chico, nous avons entassé toutes nos possessions dans la voiture et dans une de ces petites bennes à déménagement qui se fixent à la galerie, et nous sommes partis pour Iowa City. C'est par Dick Day, qui était prof à l'université Humboldt à Arcata, que j'avais appris l'existence de l'Iowa Writers Workshop. Il avait fait parvenir une de mes nouvelles et quelques-uns de mes poèmes à Don Justice, qui s'était arrangé pour me faire allouer une subvention de $500 par l'université de l'Iowa. Il ne peut pas suivre ses cours à l'université de l'Iowa jusqu'à leur terme. Il lui faudrait encore un an pour obtenir son diplôme, mais comment survivre de petits boulots qui ne peuvent suffire à une vie de famille? C'est un long parcours qui commence, ce que Carver appelle les années terribles. Il doit chercher du travail ailleurs. Il part avec femme et enfant. Il s'installe à Sacramento où il trouve un emploi de veilleur de nuit, dans un hôpital. Il travaille la nuit et écrit le jour. Il a alors presque 30 ans, et voici ce qu'il dit.
Et puis avec le temps, nous avons fini par comprendre que le labeur acharné et les rêves ne suffisent pas. À un certain point de notre parcours, peut-être à Iowa City, ou alors un peu plus tard à Sacramento, nos rêves ont commencé à s'effondrer.
Il ajoute que petit à petit, débordés par des conditions si difficiles, toutes leurs ambitions et leur existence elle-même tombaient en miettes. Le couple est dépassé. Voici ce qu'il raconte.
À notre insu, nos enfants s'étaient arrangés pour prendre les commandes. Aussi absurde que cela puisse paraître avec le recul, c'est eux qui tenaient les rênes et le fouet. Jamais nous ne nous étions imaginés qu'une chose pareille nous arriverait un jour. J'ai pris le pli d'aller picoler en sortant du boulot, au lieu de rentrer à la maison. C'était vers 1967-1968. À cette époque, mes enfants approchaient déjà de l'adolescence. Je devais avoir autour de 30 ans. Nous vivions toujours dans un grand dénuement. Nous avions déjà une faillite personnelle derrière nous et nos années de labeur harassant ne nous avaient rien apporté de plus qu'une vieille voiture, une maison en location et une meute de créanciers accrochés à nos basques. C'était déprimant, et j'éprouvais un grand vide spirituel. C'est comme ça que je suis tombé dans l'alcoolisme. J'ai jeté l'éponge, je ne voulais plus lutter. La bouteille est devenue le centre de ma vie, la seule chose au monde que je poursuivais avec assiduité. Le 2 juin 1977, Raymond Carver, après avoir failli mourir après plusieurs séjours en maison de désintoxication et en hôpital, arrête définitivement de boire. Pour terminer, voici un extrait de la nouvelle « Tu veux que je te fasse voir quelque chose ?» J'étais couchée quand j'ai entendu la grille s'ouvrir. J'ai écouté attentivement. Je n'ai rien entendu d'autre. Mais ça, je l'avais entendu. J'ai essayé de réveiller Cliff, mais il était ivre-mort. Alors je me suis levée pour aller à la fenêtre. Une grande lune était suspendue au-dessus des montagnes qui entourent la ville. Elle était blanche et couverte de cicatrices. C'était facile d'y imaginer un visage, des orbites, un nez, même les lèvres. Il y avait assez de lumière pour que je voie tout dans le jardin, les chaises longues, le saule, les cordes à linge tendues entre des poteaux, mes pétunias et la clôture entourant le jardin, la grille ouverte. Mais personne, pas un mouvement, pas de zone noyée d'ombre. Tout était brillamment éclairé par la lune et les plus petits détails étaient livrés à mon attention. Les épingles à linge bien alignées sur la corde, par exemple, et les deux chaises longues, vides. J'ai appliqué les mains sur la fraîcheur de la vitre cachant la lune pour regarder encore. J'ai écouté, puis je suis allée me recoucher. Mais je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me retourner. Je pensais à la grille grande ouverte comme une invitation. La respiration de Cliff était irrégulière. Il avait la bouche béante et les bras croisés sur sa poitrine, pâle et nue. Il occupait tout son côté du lit et une grande partie du mien. Il fallait sans cesse que je le repousse et que je le repousse. Mais il grognait, et voilà. J'ai tenu encore un moment couché avant de me dire « à quoi bon ?» Je me suis levée et j'ai enfilé mes pantoufles. Je suis allée à la cuisine où j'ai fait une tasse de thé avec laquelle je me suis assise à la table. J'ai fumé une des sans-filtres de Cliff. Il était tard. Je n'avais pas envie de regarder pour le savoir précisément. Il faudrait que je me lève pour aller au travail dans quelques heures. Cliff devait se lever aussi, mais il y avait bien plus longtemps qu'il était allé se coucher, et il aurait à peu près récupéré quand le réveil sonnerait. Peut-être qu'il aurait mal à la tête, mais il boirait plein de café et prendrait son temps à la salle de bain. 4 aspirines et il serait d'aplomb. J'ai bu le thé et fumé une autre cigarette. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'aller fermer la grille. Alors j'ai mis mon peignoir, puis je suis passée par la porte de derrière. En regardant, j'ai vu des étoiles, mais c'était la lune qui attirait mon attention et illuminait tout. Les maisons et les arbres, les poteaux et les fils électriques, le voisinage entier. J'ai jeté un regard circulaire autour du jardin avant de descendre de la véranda. Une petite brise s'est amenée qui m'a fait fermer le peignoir. je me suis dirigée vers la grille ouverte au fond du jardin. Le 21 février, nous aborderons la dernière partie de 10 minutes chronique consacrée à Raymond Carver, Carver, écrire. Les citations de Raymond Carver sont extraites de l'entretien qu'il a accordé à Mona Simpson et Lewis Busby en 1983 pour Paris Review et du livre Les Feux, 1984. À bientôt.